Nous allons parler de psychanalyse avec vous, Éric Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, docteur de troisième cycle en psychologie, président de l'Association mondiale de psychanalyse. Je m'arrête là et je renvoie donc les auditeurs à la quatrième de couverture de votre livre « Lost in Cognition, psychanalyse et sciences cognitives », une publication des éditions Cécile Defaux dans la collection dirigée par François Ansermet, la collection Psyché, dans laquelle est paru d'ailleurs, je le signale tout de suite, le livre tout à fait intéressant d'un de vos collègue Philippe Lacadé, L'éveil et l'exil, enseignement psychanalytique de la plus délicate des transitions, l'adolescence. Éric Laurent, donc votre livre regroupe différents articles qui sont autant de contributions au débat en cours, au débat qui fait rage, presque, on a envie de dire, dans certains de ces aspects, entre donc la psychologie comportementale, à laquelle les neurosciences ont fourni, comme vous dites, des habits neufs, et la psychanalyse qui résiste et réplique à cette tentative d'imposer à l'ensemble des psychothérapies ce nouveau paradigme cognitiviste. Alors ce paradigme, on peut le décrire comme la réduction du sujet de la psychologie à un système d'apprentissage qui, en quelque sorte, accomplit et dépasse, comme vous le mettez en évidence, donc le programme de Piaget d'unifier la psychologie autour de l'apprentissage de l'enfant sous une forme comportementale, mais contrairement à Piaget, donc en abandonnant les références logique et langagière. Or, Éric Laurent, dans cette traduction des processus subjectifs en termes de réseau neuronal, ce qui est perdu, c'est tout simplement l'inconscient. Et c'est ce qui donne le sens de votre titre, donc emprunté à celui d'un film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Et il s'agit bien de traduction, d'ailleurs, là aussi. Lost in Cognition, c'est donc une affaire de la plus haute importance, Éric Laurent.
En effet, d'ailleurs, si j'ai choisi le titre, c'est que c'est très difficile de traduire le charme du titre « Lost in Translation ». De dire ce qu'il y a perdu dans la traduction ne rend pas précisément ce que permet le cristal de la langue anglaise. C'était pour toucher, en effet, à ce point, qu'à vouloir réduire la dimension subjective à celle d'apprentissage de conduite suffisamment segmentée, suffisamment réduite, suffisamment givaroïsée, pour être reproductible en laboratoire, mesuré, évalué. Enfin, toute cette espèce de vaste approche conduit à une évaporation de ce qui est à la fois, d'un côté, la signification des actes de la vie humaine, dans ce qui est la plus générale, et en même temps évacue cet aspect fondamental que désigne l'inconscient freudien, c'est que le sujet est profondément égaré dans la langue. Que dans la langue, il y a...
Ce que vous appelez l'équivoque.
Voilà.
Qui est nécessaire à la vie psychique.
C'est le mot...
Et au lien social, bien sûr.
Voilà. Le malentendu, l'équivoque, ça c'est le mot de Jacques Lacan, que je reprends, bien sûr. Et aussi les grandes idées vagues, comme disait Valérie. Enfin, les grands malentendus sont fondamentaux. Nous cheminons dans le malentendu. Et nous essayons de maîtriser la langue avec nos dictionnaires, nos significations, nous essayons de bien contrôler tout ça, mais tout ça nous échappe foncièrement. Mmh. Et c'est un des charmes aussi du film en question, où on a un sujet profondément égaré,
Le
héros dans le Japon, le jet-lag, le monde de la publicité japonaise, tout cet égarement profond, et qui, par hasard, rencontre une forme d'amour. Et qu'au fond, c'est bien plutôt par là qu'est ce à quoi ce modeste livre veut s'opposer. C'est à cette conception d'une existence qui peut être programmée, réduite à l'apprentissage, contrôlée, et avec des comportements sur lesquels on peut agir, laissant de côté tout ce qu'il y a de profondément lié au hasard, à la chance, à la contingence dans l'existence humaine, à la rencontre.
Oui.
Et ça ne peut pas se programmer.
Et par rapport justement aux traces laissées en nous par l'apprentissage, il y a tout ce monde inapparent qui, comme vous dites, se lève au moment du rêve et qui vient d'où ? Alors justement, vous me donniez une définition très pragmatique de l'inconscient. Hein, nous discutions tous les deux avant de prendre l'antenne. Et vous me disiez, donc l'inconscient, c'est tout ce qui a été manqué, c'est tout, c'est la trace...
C'est la trace de tout, précisément, de ce qui n'a pas eu lieu. Je sais. Voilà. C'est lorsque les apprentissages cessent que, précisément, ce qui n'a pas pu s'apprendre, ce qui a été raté, ce que l'on n'a pas accompli, tout cela revient dans ce monde de ce que Jacques Lacan résumait d'un mot, de tout ce qui cloche. Avec cette équivoque sur le mot de cloche, qui fait signal, qui retient, qui appelle et qui désigne une faille. Mmh. Et c'est précisément ce monde de la faille qui, lui, constitue un inconscient tout autre que ces automatismes dont nous avons plus ou moins conscience. En effet, tous ces automatismes-là, c'est précisément ce qui nous a échappé et après quoi nous courons, mmh. après quoi nous sommes, disons, voués à un impossible, disons, une impossible fusion.
Mmh. Et donc, Éric Laurent, l'inconscient, vous dites-vous, ne relève d'aucun apprentissage.
En effet, c'est précisément le « aucun », c'est que Dieu sait, si je puis dire, c'est le cas de le dire, que les civilisations se sont toujours, sous une forme ou sous une autre, ont mis l'accent sur l'apprentissage et que, justement, l'inconscient, lui, c'est dans un rapport de ce qui échappe toujours à ces efforts d'éducation.
Oui. Alors vous, tout de même, vous donnez la voix, vous intéressez aux arguments d'un certain nombre de psychanalystes qui pensent que psychanalyse et neurosciences ne sont pas forcément antinomiques, on va le voir. Mais vous citez notamment le cas de Serge Leclerc qui, avant même que les neurosciences ne s'appellent comme ça, enfin, avant l'arrivée des neurosciences, a tenté de proposer le modèle d'un inconscient justement réduit à un système d'apprentissage. Là, il s'agissait d'apprentissage, on va dire, de traces s'inscrivant sur le corps érogène, d'apprentissage érotique, en quelque sorte, et son problème est venu au moment où il a voulu tenter, justement, de faire la connexion avec le langage.
Disons qu'en effet, j'ai la plus grande estime pour Serge Leclerc, qui était un élève très important de Jacques Lacan, mais il me semble que dans la tentative qu'il a initié, qui était de construire un système selon lequel l'inconscient ce serait à la fois un système donc de traces laissées sur le corps comme une sorte d'inscription quasi matérielle et qui ensuite se combinerait en décombinaison à des niveaux de plus en plus formels jusqu'à rejoindre le langage et qui aurait une grande continuité entre disons l'apprentissage érogène et le langage. Or ce type de montage ou de tentative de réduire enfin disons le système du langage a une expérience donnée, localisée en dernière instance, bute sur, disons, ce qui est en linguistique repéré comme la capacité du locuteur à pouvoir, à l'infini, discerner si des chaînes langagières qu'il entend relèvent de sa langue ou pas. Et que ça, cette capacité-là, savoir... Cette capacité que nous avons de savoir ce qui est du français et ce qui ne l'est pas, personne n'a pu nous l'apprendre. Nous ne pouvons pas, à partir des apprentissages qui ont été faits, rendre compte de cette capacité. Et on sait que c'est ça qui a été le grand apport de Noam Chomsky voilà. à l'obstacle qu'il a dressé devant les tentatives behavioristes qui, aux États-Unis, avaient, disons, tenaient le haut du pavé jusqu'au début des années 60. Et où son article-là, décisif contre le Skinner et la perspective de l'apprentissage, a ouvert un champ nouveau. Mmh. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que, justement, le cognitivisme a essayé de tenter de trouver un mécanisme, un peu sur le mode chomskien, quelque chose d'inné, et qui serait la machine à connaître, comme Chomsky lui cherchait la machine à langage.
Voilà, c'est ça. Parce que vous revenez d'ailleurs dans le premier chapitre de ce livre, Éric Laurent, sur le débat Lacan-Chomsky, et c'est évidemment lui qui a mis à mal, disons, les prétentions des neurosciences, et en particulier de la psychologie cognitivo-comportementaliste, à assimiler la capacité langagière à un apprentissage.
En effet, et cela c'est en effet décisif, c'est ce qu'il y a en tout cas d'utilisable, dont nous pouvons faire un usage dans la psychanalyse de cet effort chomskien, qui a rencontré ses limites, et donc maintenant nous sommes un peu dans le post-chomskisme, mais en tout cas de cet effort-là. Par contre, là où la psychanalyse se sépare de Chomsky, c'est que lui a pensé faire du langage un organe qui serait possible d'identifier, d'isoler.
Dans le cerveau
Dans le cerveau et dans le corps.
Oui.
Un module qui met en jeu, par exemple, comme la vision, il y a le mode de traitement que fait, mais il y a les organes de perception, et il y a tout un système de codes, d'hormones, enfin, au sens large, qui circulent, qui font partie du système de la vision. Donc, c'est pas simplement le cerveau, c'est le cerveau en tant que lié au corps comme tel. Mais là où la psychanalyse se différencie de cela et de ses recherches, c'est que l'inconscience n'est pas un organe. C'est ce qui est l'organe négatif de tout organe, si je puis dire. C'est ce qui est la faille dans tout organe. C'est ce qui est le défaut même. Là encore, la même logique s'applique.
Le défaut de la cuirasse.
C'est ce qui est le défaut de tout ce qui est la vision positive, disons. Mmh. Il y a précisément ce qui ne s'enregistre pas, ce qui vient, ce qui ne peut pas se nommer, ce qui ne peut pas se traiter comme information, et pas simplement en termes d'automatisme, c'est ce qui vient être touché par ce que Freud a appelé le champ sexuel, enfin par l'intérêt sexuel dans un sens très large, et qui introduit une faille profonde dans le corps, qui est le lien, le sexuel en tant que le lien à l'autre. Le lien à l'autre qui vient s'instaurer dès les débuts du petit homme, enfin dans son rapport avec la toute petite enfance, la mère, enfin dès qu'il est expulsé du corps, et déjà dès qu'il est dans le placenta, il y a les rapports aussi avec ce qu'il ne peut pas traiter de son rapport à l'autre.
Oui. Alors, dans la foulée de ce retour, disons, sur le débat Lacan-Chomsky, il y a un article très intéressant, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, Éric Laurent, sur... qui évidemment pose là aussi l'importance du langage hein, dans toute discussion sur l'inconscient. Je dirais c'est Lacan avec Joyce comme dans son texte des écrits. Je parle de Lacan auteur cette fois-ci. Kant avec Sade.
Oui, tout à fait. Alors là entre Kant avec Sade et alors Kant avec Sade. Qu'est-ce que c'était Kant avec Sade? C'était donc de dire que la découverte de la psychanalyse, c'est que les grands impératifs, les grands idéaux, sont articulés à la jouissance du corps. Que les grands impératifs kantiens agissent tels que ta maxime puisse être celle de l'universel. En fait, ce que ça cache, c'est une volonté sadique de se débarrasser de tout objet qui encombre l'existence. De vouloir le monde transcendantal, c'est au fond une volonté sadique de détruire autour de soi tout ce qui est encombrement pathologique. Et que, au fond, Lacan, de façon amusante, érudite, précise, montre cet envers de l'idéal qui rejoint en psychanalyse les ambiguïtés d'un concept, qui est le surmoi. Le surmoi, c'est à la fois un système de commandement, c'est un système d'interdit, ne fais pas ça. C'est les 10 commandements, d'accord, ça fait partie du surmoi, mais en même temps que les 10 commandements, c'est un système de fais ça, pour jouir, alors va au fond. Et que, disons, c'est un système de pousse au jouir.
Oui,
c'est la découverte de la psychanalyse, c'est que avant d'être que le tout petit enfant, lui-même, s'il est poussé par quelque chose, c'est par une sorte d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, vers ce qui peut être sa jouissance. C'est comme, disons, les rats, on sait, on les met dans des laboratoires, si on leur casse un certain nombre de mécanismes, le rat se met à appuyer tout le temps sur la décharge de jouissance. Bien, les petits-enfants... pas besoin de leur casser les mécanismes, il y a quelque chose comme ça, si on ne fait pas attention, s'ils sont dans des environnements, s'ils sont pris dans une relation à l'autre qui ne les protège pas, qui ne leur donne pas un certain nombre de repères fondamentaux, eh bien, sont poussés, et on le sait que dans l'enfance, l'adolescence, etc., il y a des manifestations très mortifères, et qui relèvent aussi de ce surmoi, qui n'est pas qu'interdiction, mais, comme le dit Lacan, pousse au jouir.
Oui. Alors, donc, ce texte Lacan avec Joyce a une toute autre problématique, hein, puisque il s'agit là de la lecture de Joyce par Lacan, qui a donné lieu d'ailleurs à des séances du séminaire dont vous racontez.
Ça a donné lieu à tout un séminaire.
Tout un séminaire,
à des interventions de Lacan dans un très grand colloque sur Joyce, sur Aristote, ouais. Où il cherchait quelque chose, d'ailleurs qui est une recherche qui l'a amené à proposer des modèles, disons, pour la psychanalyse, des modèles distincts de référence à la linguistique, passer par des formes topologiques différentes de ce qui peut être la page sur laquelle on inscrit l'écriture. Et c'est là, en effet, c'est de considérer les étranges manifestations de l'écriture chez Joyce. Un inconscient, non plus si l'on veut structurer comme un langage, comme il l'a dit à un moment donné, mais comme une écriture nouvelle. Et c'est au fond sur les pistes de Joyce que Lacan a cherché quelle était donc cette écriture nouvelle que Joyce a proposée à partir de son esthétique, disons, et dans le champ de déconstruction, de défaire l'écriture telle qu'elle était, à son époque, telle qu'elle se présentait, telle que le roman se présentait. Et là, Lacan a cherché sur cette piste-là, quelle était donc cette écriture nouvelle dont témoignait Joyce, et que la psychanalyse pouvait s'en inspirer pour examiner un certain nombre de phénomènes inconscients.
Alors, vous revenez sur la question donc des neurosciences dans ce livre, Éric Laurent, et vous vous demandez s'il est possible, nous évoquions cette éventualité au début en parlant de Serge Leclerc, est-ce qu'il est possible d'articuler neurosciences et psychanalyse, et vous discutez notamment un livre qui est le fruit d'une rencontre donc entre un psychiatre et un psychanalyste, Pierre Magistretti et François Ansermet, qui est le psychanalyste. J'ai cité son nom en évoquant donc
un neurobiologiste, Pierre Magistretti, et un psychiatre-psychanalyste qui est en
France. Voilà, et qui est la personne donc, qui dirige cette collection Psyché, où paraît votre livre.
En effet.
Et alors, eux, ils insistent beaucoup, ils acceptent donc la notion de traces psychiques, mais dites-vous, en insistant davantage sur la notion de plasticité et en ne limitant pas au cerveau cette histoire, mais en insistant finalement sur... ils étendent ce système de traces au cortex et au corps, surtout.
Disons, il y a dans les neurosciences au moins deux courants. Mmh. Je suis en train des deux. L'un qui est extrêmement localisateur et qui, par exemple, cherche comment, à l'occasion des expériences, s'inscrivent, par changement de potentiel, dans tel ou tel neurone qui peut aller jusqu'à être isolé, comme certains chercheurs en ont témoigné le mois dernier dans une étude publiée. Une localisation que, dans une expérience, ça correspond non seulement à une stimulation visible par image, mais même mesurable par une électrode. Et donc, on localise à fond. Et puis, il y a au contraire un autre courant, dans les mêmes neurosciences, qui s'intéresse à tout ce qui délocalise l'expérience, qui fait que cette mémoire... là, localisable, ne peut rejoindre que des phénomènes à très court terme. Qu'au fond, il y a des phénomènes sur plus long terme qui ont lieu au contraire à une délocalisation et des mécanismes très compliqués de reconsolidation, etc. Je laisse de côté de savoir si ce qui s'appelle ces traces sont du même ordre que le signifiant ou les objets dont s'occupe l'inconscient freudien. Je ne le pense pas. Mais surtout, ce que je crois, ce qui est décisif, là, c'est qu'en tout cas, le courant avec lequel il est possible, si je puis dire, de réfléchir en commun, c'est ce courant qui précisément va contre la conception localisatrice, contre la conception d'assigner à demeure.
Déterministe
radical. Le souvenir, c'est là. Et donc, votre souvenir, c'est l'inscription dans telle ou telle partie du cerveau. Non, ce souvenir, ça n'est pas déstocker quelque chose qui est stocké quelque part. Ce souvenir, c'est un processus beaucoup plus complexe qui met en jeu toute votre histoire, tout votre corps, toute votre histoire et le moment précis, ce que vous cherchez à obtenir en retrouvant ce souvenir. Et ça, c'est beaucoup plus, disons, ce dialogue-là avec les scientifiques est possible avec ceux qui insistent sur l'indétermination profonde. Et donc, en effet, disons, l'indétermination, la rencontre, le hasard, tout ce qui fait que cette grande opposition que j'ai décrite entre l'apprentissage d'un côté et la rencontre si vous me permettez, disons, l'amour, ce qui relève de ce champ-là, eh bien, cela fait partie toujours de ces grandes orientations et distinctions avec lesquelles il faut s'orienter.
Alors, vous évoquez également dans un autre article donc d'autres tentatives justement de, alors vous appelez ça des espèces de monstres hybrides, les voies sans issue de la psychanalyse cognitive ou encore la neuropsychanalyse, donc qui sont plutôt effectivement du côté. Alors, vous citez notamment l'ouvrage de Gérard Pommier, Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse, mais surtout donc. Donc, vous critiquez la notion utilisée par Antonio Damasio, l'auteur de l'erreur de Descartes, justement. Vous faites une critique qui concerne Descartes, donc l'erreur de Descartes, la raison des émotions, l'idée suivant laquelle sans émotion, il n'y a pas de raison, en somme. Hein, c'est une idée plutôt, enfin, dont vous pourriez vous sentir proche.
Ah, tout à fait.
L'absence d'émotion et de sentiment, voilà.
Descartes, c'est très profond.
Voilà, sauf que vous critiquez cette notion d'image mentale qui sert beaucoup à Damasio dans sa démonstration, en pointant effectivement une contradiction importante, c'est que malgré ses critiques de Descartes, Damasio ne semble pas délivrer des présupposés de la représentation telle que la concevait le XVIIe siècle.
Oui, alors là-dessus d'abord distinguons, Gérard Pommier fait un usage ironique de la façon dont son titre... les sciences des neurosciences démontreraient la psychanalyse, mais en effet, je prends mes distances avec cette perspective-là, en considérant qu'il y a des champs d'incommensurabilité. Ce ne sont pas les mêmes domaines.
Ah, notamment à propos de la conscience, Gérard Pommier, par exemple, montre qu'un certain nombre de résultats de la neurophysiologie ne peuvent pas être interprétés sans la psychanalyse, et qu'en particulier, la question de la conscience demeure insoluble, incompréhensible, sans le concept d'inconscient.
Très certainement, en tout cas, la conscience est devenue maintenant l'objet, si je puis dire, elle est devenue l'objet, comme le disait un humoriste, est devenue l'objet des prix Nobel de physique à la retraite, comme Watson, qui vient de proposer, d'autres encore, qui proposent un certain nombre de modèles, plus ou moins articulés toujours aux incertitudes de la mécanique quantique, pour rendre compte de la conscience. Mais enfin, effectivement, je crois qu'il vaut mieux passer par ce qu'il y a dans ce que la psychanalyse propose, en effet, qui est le rapport profondément de la conscience comme illusion fondamentale, comme méconnaissance, comme dit Lacan, et que cette illusion, méconnaissance, écran, méprise fondamentale, c'est ce qui définit le champ de la conscience. Quand je veux me ressaisir moi-même, au fond, je me trompe. Et c'est loin d'être le maître et le dominateur de l'univers, comme pensait Descartes. Disons, le moment, l'instant ponctuel du cogito, c'est plutôt une erreur fondamentale. Et en ce sens, alors, là où Damasio, c'est tout à fait c'est autre chose, c'est que Damasio, lui, essaye de donner de l'émotion une définition qui soit une sorte de cartographie d'un état du corps, et dans lequel on pourrait avoir une sorte de... La joie, ça correspondrait à tel état de homéostatique, voilà. De l'excitation neuronale dans telle ou telle zone du cerveau, et donc fixe. Ce qui empêche toute évolution, bien sûr, de la question de la joie, variation qui fait que la joie, peut-être si on fait une série du très grand nombre, on peut en donner une signification commune, mais pour chacun, un par un, au cas par cas, la joie n'est pas la même chose.
Voilà.
La joie de Spinoza, si je puis dire, n'est pas celle de Descartes.
Il a écrit aussi un livre sur Spinoza, Damasio, et il distingue donc une émotion du sentiment d'une émotion. Alors, c'est l'exemple que vous donnez de la joie. Donc, c'est une image mentale, en quelque sorte, qui donne le départ d'une émotion qui est elle-même retransmise au cerveau sous forme de sentiment d'une émotion, donc la joie est le sentiment d'une vie en équilibre, la tristesse celui d'une vie en désarroi. c'est-à-dire en déséquilibre fonctionnel. On voit quand même, effectivement, dans ces citations que vous faites, Éric Laurent, tout ce que ça peut avoir quand même d'élémentaire, au sens le plus trivial du terme.
Ah, c'est une volonté d'aller à l'élément, c'est une volonté d'aller à une fixité, à une cartographie, c'est son mot favori, mapping, d'obtenir que la science, pour lui, c'est cette direction-là. Et en effet, il me semble qu'il y a une autre conception de la science, qui est celle, au contraire, si je puis dire, du démapping, enfin, ou du non-mapping, de ne pas vouloir obtenir cette réduction cartographique à l'élément, à un état élémentaire, et qui est, tout de même, c'est un point. Certes, je me suis permis de critiquer Damasio parce que c'est un auteur connu, que lequel les gens ont pu lire, etc. Mais il y a tout un effort, il y en a d'autres dans tout un courant de neurosciences que mon ami Jacques Alaminer a critiqué très précisément, qui est cette volonté de réduire, enfin, des réponses que l'on peut mesurer ou observer par des machines diverses, à imager dans le cerveau, que cela serait le dernier mot, cela serait le fondement de cette, disons, de ce que nous, par ailleurs, nous reconnaissons comme ensemble des émotions ou ensemble des objets de notre monde.
Oui. Alors, la critique que vous faites aussi, elle porte... alors, au début du livre, vous parlez de la novlangue cognitivo-comportementale et des effets de synonymie, de sens apparenté qui donnent à ces savants l'impression de parler de quelque chose de commun, donc entre neurologues, biologistes et psychologues, mais qui ne s'agit, dites-vous encore, que d'un lien social ou d'un semblant de science. Au mieux, et que, donc ça c'est plus théorique et plus central peut-être comme critique, il s'agit de distinguer les résultats des neurosciences de leur mode d'intégration en psychanalyse et d'éviter ce que Althusser, que vous citez également, Éric Laurent, appelait l'importation abusive de concepts.
Oui, en effet, cette importation abusive de concepts, surtout quand se fait sur ce mode de la synonymie, c'est lorsque, en effet, l'on nous montre, par exemple, lorsque on appelle apprentissage du langage, le fait qu'on construit en laboratoire une expérience de discernement de tel ou tel mot dans des conceptions subliminales, et que la reconnaissance du mot dans des images subliminales fait qu'ensuite, on peut mesurer qu'il y a eu, bien que ce soit subliminal, un apprentissage. Et on dit, voilà, l'apprentissage du langage, ça consiste à ce type d'automatisme. Non, l'apprentissage du langage, c'est que nous nous retrouvons plongés dans un bain de langage dans lequel nous sommes égarés, et nous arrivons, et c'est la façon dont chacun s'est égaré à sa façon dans le langage, c'est-à-dire justement n'a pas compris de ce dont il s'agissait, est tombé sur l'énigme de ce que voulaient lui dire ses parents, son milieu, autour de lui, c'est sur ces failles dans lesquelles il n'a pas pu précisément trouver de réponse, et il s'en est inventé, c'est là que nous pouvons parler d'un apprentissage au sens véritable, d'une façon de se reconnaître dans le langage. Et c'est bien pour cela que, je dis, il y a synonymie lorsqu'on confond tous ces différents niveaux qui doivent être dépliés, articulés et reconnus dans leur spécificité.
Voilà. Alors, je ne voudrais pas, évidemment, passer sous silence les chapitres très critiques que vous consacrez à ce que vous appelez la psychopathie de l'évaluation, qui a saisi l'INSERM, notamment dans son rapport, donc, sur l'expertise collective et essais cliniques comparés. Vous appelez ça une machinerie devenue folle. Donc il s'agit, pour les termes, d'évaluer manière confondue.
L'INSERM, pas l'INSERM qui est en tant que tel, disons, c'est toute cette bureaucratie sanitaire qui est à la fois française et internationale, qui tente, en effet, suivant ses préjugés, d'obtenir la réduction de comportements à des segments extrêmement élémentaires et qui, en dernière instance, pourraient être déterminés par des déterminants génétiques, etc., et d'obtenir une sorte de vaste fichier qui correspond à l'inquiétude sociale actuelle. Nous sommes au milieu des débats sur le fichier Edwige, mais l'expérience de l'INSERM, ou bien ce qui a donné lieu à ensuite l'expérience, une expertise en 2005 sur
la dépression,
foulant comment ficher les enfants à partir de l'âge de 3 mois, ce qui a donné lieu à la pétition zéro de conduite, etc. C'est contre toute cette conception qui visiblement est une impasse.
Merci Eric Laurent.